d'altitude et des échelles spatiales, je voudrais d'abord remercier les quelques personnes qui m'ont donné des données, des graphiques pour illustrer ce que je vais essayer de vous raconter. Alors tout d'abord, le cheminement que je vais essayer de suivre, ben, je vais essayer de répondre, de proposer en tout cas des réponses à quatre points. La première, bon, Hervé en a déjà parlé, mais en gros, c'est pourquoi est-ce que les projections climatiques issues des modèles de climat sont-elles incertaines ? Après, je vais me poser la question de savoir s'il existe une limite intrinsèque à la prévisibilité climatique. Et puis, je vais répondre par l'affirmative à cette question, et puis je vais essayer de voir comment varie cette barrière de prévisibilité avec l'échelle spatiale considérée. Et puis après, j'essaierai d'évoquer les conséquences pour l'adaptation. Alors, je reprends un petit peu la transparence qu'Hervé a montré pour montrer que l'outil qui est utilisé pour ces projections climatiques, quelles qu'elles soient, ce sont des modèles qui sont basés sur un certain nombre de lois physiques. Hervé a parlé de la complexification de ces modèles au cours des 40 dernières années, à leur complexité croissante, tout d'abord parce qu'on y ajoute de nouvelles composantes et de nouveaux processus qu'on essaye de résoudre. Il y a aussi une course dont on n'a pas encore parlé, mais aux petites échelles spatiales, c'est-à-dire qu'on a des modèles de plus en plus raffinés en termes de représentation et de finesse horizontale et verticale, à la fois dans l'atmosphère, dans l'océan et sur les surfaces continentales. Et puis on peut se poser la question de savoir si cette complexité croissante, elle va nous amener vers une réduction des incertitudes. Je pense qu'un certain nombre de mes collègues et moi-même, on pense qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, ça va plutôt nous amener une incertitude supplémentaire. Mais on peut imaginer peut-être que, selon une espèce de courbe en cloche, au bout d'un certain temps, on va atteindre une asymptote et qu'on devrait après voir une décroissance de ce type d'incertitude sur lequel je vais revenir. Alors un autre point important aussi, c'est que, ça c'est un petit peu un aparté, mais c'est un aspect un peu sur une vision un peu popérienne, je dirais. On nous fait souvent le reproche que nos modèles physiques ne seraient pas falsifiables, au sens popérien du terme. Ici, ce que je montre ici, donc là, ce sont les modèles, suivant les décennies, les années 70, 80, 90, etc. Et puis ici, il y a les réponses. C'est une réponse en température. Ici, vous avez l'altitude. Ici, vous avez la latitude de ces différentes générations de modèles quand on les soumet à une augmentation des gaz à effet de serre. Alors, dès les années, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, quelles que soient les générations de modèles, alors évidemment, on a plus de détails, mais qu'en gros, ce qu'on appelle l'empreinte des gaz à effet de serre, c'est-à-dire un réchauffement dans la partie basse de l'atmosphère et un refroidissement dans la partie haute du gaz à effet de serre, cette réponse-là, elle n'a pas radicalement changé depuis les années 70. Or, dans les années 70, on ne savait absolument pas, on n'avait pas de mesure, on n'avait pas de satellite, on ne pouvait pas savoir ce qu'était la structure verticale de l'atmosphère, et encore moins savoir ce qu'allait être son évolution dans les 40 années suivantes, c'est-à-dire jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on a ces mesures, et on sait que quand on regarde la tendance de température sur l'atmosphère sur ces 40 années, eh bien, on observe quelque chose qui est extrêmement proche des courbes que vous voyez ici. Donc on aurait pu très bien trouver une autre empreinte, et l'observation aurait pu nous démentir, et donc dans ce cas-là, la théorie, l'explication proposée aurait été falsifiable. Et voilà, mais il se trouve que ça n'a pas été le cas, donc c'était juste un petit aparté là-dessus. Maintenant, sur les sources d'incertitude. Alors moi, je vais avoir ma propre classification, et puis je vais essayer après de la justifier. Alors moi, j'en vois trois. La première, elle a déjà été mentionnée, c'est la source épistémique, c'est-à-dire une connaissance imparfaite des phénomènes. Alors Hervé en a parlé, la sensibilité climatique, le rôle des nuages, des aérosols, on en a parlé, les rétroactions climat-carbone, tous ces processus dont on a au jour d'aujourd'hui une connaissance imparfaite et qui entraînent une incertitude. La deuxième, moi je l'appelle réflexive, c'est qu'évidemment la société fait partie à la fois du problème, émission des gaz à effet de serre, et puis d'un certain nombre de solutions par les techniques d'atténuation et d'adaptation. Alors oui, la certitude épistémique, on peut espérer qu'à terme, évidemment, avec l'approfondissement des connaissances, on va arriver à la réduire. Donc on n'est pas désespéré sur cette source-là. La deuxième, la réflexive, on peut la contraindre. On la contraint aujourd'hui par différents scénarios d'émission. Et puis on peut avoir un retour sur le passé avec les scénarios d'émission. Les scénarios d'émission qui ont été proposés dans les premiers rapports du GIEC, on peut voir s'ils étaient complètement, s'il s'est véritablement passé et complètement en dehors des clous qui avaient été proposés ou pas. Donc il y a toujours là un aller-retour qui est intéressant. Et puis la troisième, sur laquelle je vais essayer de me concentrer, c'est ce que j'appelle l'incertitude stochastique, qui est due à la variabilité intrinsèque du système climatique, ou qu'on appelle aussi interne, et qui est de source principalement chaotique, et qui amène à l'existence d'une barrière de prévisibilité, et donc d'une irréductibilité presque congénitale de l'incertitude. Alors, je reprends aussi un graphe qu'Hervé a montré, mais que je vais commenter un peu plus. Ce que vous voyez sur ce graphe, c'est l'évolution de la température globale de la planète, de 1900 jusqu'à 2100. Alors ici, tout d'abord, contrainte par les observations des gaz à effet de serre, enfin, des émissions de gaz à effet de serre, puis après, suivant les différents scénarios qu'Hervé a montré. Moi, je vais me concentrer sur les barres qui sont ici. Tout d'abord, pour essayer de voir, alors en fait, dans ces barres ici, les trois sources d'incertitude dont j'ai parlé sont présentes, à la fois l'épistémique, la réflexive et la stochastique. Alors, la réflexive, par exemple, c'est celle qui dépend des différents scénarios d'émissions qui sont choisis. Donc, autrement dit, ici, vous avez les différents scénarios, hein, vous en avez six ici, et puis vous avez les valeurs moyennes pour chacun des scénarios, moyennées sur l'ensemble des modèles qui ont été utilisés pour chaque type de scénario. Donc, pour le B1, bah, c'est 1,8 degré, et pour le A1 FI, c'est 4 degrés. Donc, on peut dire qu'une estimation grossière de l'incertitude réflexive, eh bien, en gros, c'est une gamme qui va de 1,8 à 4 degrés, donc à peu près 2 degrés et quelques. Après, quand on regarde un scénario particulier et qu'on regarde cette variation ici, là ici vous avez la température, hein, donc ici vous avez 1 degré, 2 degrés, etc. Cette incertitude qui est là, elle mélange à la fois l'incertitude stochastique et l'incertitude épistémique. C'est-à-dire que vous avez plusieurs modèles, chacun a sa propre représentation des phénomènes physiques qu'on veut modéliser, mais chacun a aussi sa propre variabilité interne naturelle du climat. Donc en fait, sur ce graphe-là, il n'est pas possible de discriminer entre les incertitudes épistémiques et les incertitudes stochastiques. Ce qu'on peut néanmoins noter, c'est que il n'y a pas indépendance, ces trois sources d'incertitudes ne sont pas indépendantes. Il y a un lien entre ces trois sources d'incertitudes, on le voit très bien, puisque dans le cas du B1, par exemple, si on compare ce scénario-là à ce scénario-ci, on voit qu'il y a une plage d'incertitudes, suivant les modèles qu'on utilise, beaucoup plus importante que dans le cas du B1. Donc ça, c'est un point très important. On n'a pas, ces sources d'incertitude ne sont pas indépendantes, et j'essaierai d'y revenir. Alors ça, c'est une vision globale, c'est à l'échelle globale. On a un paramètre, il n'y a aucune information spatiale. C'est la température moyennée sur la planète. Zéro information spatiale. Alors après, on peut se demander ce que ça donne quand on essaye de raffiner l'échelle spatiale. Alors ça, c'est mon plot Smarties, si j'ose dire, où je présente à la fois, il y a deux sources d'incertitude ici, c'est celles qui sont épistémiques et stochastiques. Alors ce que je vous montre ici, c'est donc la variation en fonction du temps, hein, à partir des années 2000 jusqu'à la fin du siècle, vu que ce sont des projections climatiques, ici vous avez donc la température, c'est la température estivale moyennée sur la France. Et ce que je montre, ce sont les anomalies de température, donc ça va de moins 2 jusqu'à 10 degrés à peu près, par rapport à une climatologie qui est définie sur ces années-là. Alors ça c'est fait avec un seul scénario d'émission, le A1B, scénario médian. Et puis, c'est fait avec 22 modèles de climat dont les noms sont listés là, mais peu importe. Alors, d'abord, la première chose qui frappe, c'est l'extraordinaire diversité. Donc, chaque point ici correspond à un modèle et à l'anomalie de température estivale pour une année. Donc, on voit que, quelle que soit la période, on a une dispersion hein, entre les différents modèles qui est considérable. On voit néanmoins, bien sûr, que si on regarde la courbe noire ici, qui est la moyenne multimodèle, on a une augmentation, hein, à peu près, on arrive ici à la fin du siècle, vers quelque chose qui est de l'ordre de 5 degrés, mais on voit toujours là une dispersion très importante. Alors non seulement on voit une dispersion très importante, mais si on s'intéresse à cette partie du diagramme qui montre en fait la plage de variation possible pour un climat moyen des années 2020, des années 2050 ou de fin du siècle, on voit une croissance des barres d'incertitude, c'est-à-dire de la dispersion possible. On voit par exemple qu'en 2100, on peut avoir un réchauffement qui va de l'ordre de 2 degrés jusqu'à quelque chose qui va à presque 8 degrés pour le modèle le plus extrême. Alors, une fois de plus, j'insiste, dans ces barres-là, dans cette dispersion-là, il y a ces deux sources-là, à la fois l'épistémique et à la fois la stochastique. Mais une fois de plus encore, avec juste cette approche-là, on ne peut pas différencier entre ces deux sources-là. Alors, on peut voir aussi, ici, il y a les observations qui sont là, les petits triangles noirs, là, sur quelques années. On voit qu'elles sont à l'intérieur de la dispersion des modèles, hein, et que donc il n'y a pas de raison de penser que les modèles sont par exemple systématiquement trop chauds ou trop froids par rapport aux observations. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'échelle régionale, et si on compare en fait avec ces plages d'incertitude-là avec celles qu'on a vues précédemment, on a évidemment en général une augmentation, quand on va du global vers le régional, on a une augmentation de l'incertitude, en particulier de l'incertitude épistémique et stochastique, et on verra si on peut différencier un peu les deux, parce que pour l'instant, sur ce graphe-là, on ne peut pas le faire. Alors, maintenant, je vais essayer de parler de cette limite intrinsèque à la prévisibilité. Alors, elle vient donc de la variabilité interne du système climatique, qu'on appelle aussi naturelle. Elle est évidemment générée par les processus et les rétroactions à l'intérieur même du système climatique entre ces différentes composantes. Elle est présente à toutes les échelles de temps. Elle a une certaine prévisibilité climatique, et c'est un des thèmes de recherche très important en ce moment de savoir quelle est la prévisibilité qu'on a sur ce type de variabilité. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'elle est probablement de quelques mois à quelques années tout au plus, et qu'elle est plus forte sur l'océan que sur le continent. Donc c'est quelque chose de faible. On s'intéresse à des projections qui sont de l'ordre de plusieurs décennies ou du siècle. Il n'y a pas de prévisibilité aujourd'hui associée à ce type de variabilité. La seule chose qu'on peut montrer, c'est que sur certains endroits du globe, il y a une prévisibilité de l'ordre de quelques années tout au plus. Alors maintenant, on peut se poser la question de l'amplitude de cette variabilité interne et de sa sensibilité aux échelles spatiales. Alors la méthode que je vais utiliser pour illustrer ça, c'est que je vais prendre ce que j'appelle un super ensemble, c'est-à-dire je vais prendre un modèle de climat, un seul modèle de climat, un seul scénario d'émission, je vais faire 40 projections climatiques de 2000 à 2060 avec ce modèle, et la seule chose que je vais changer entre ces 40 projections climatiques, c'est que je vais varier de manière infinitésimale les conditions initiales de l'atmosphère au début de cette simulation. Et donc je vais, par cette méthode, qu'on appelle celle du modèle et scénario parfait, essayer d'estimer la distribution des futurs possibles sous une hypothèse qui est celle de la présence de la seule variabilité interne. Tout le reste est fixé. Alors, pour un petit peu de temps pour expliquer ce graphe, donc là je m'intéresse en fait à l'évolution de température sur l'Europe, et puis après en différents points, enfin villes ou pays en Europe, sur le globe, sur la période 2000-2060. Donc les cartes ici, les cartes spatiales, montrent trois choses. Ici, c'est la moyenne sur les 40 projections climatiques, la moyenne du réchauffement. Vous avez l'échelle en degrés ici, de moins 6 à peu près 6 degrés. Ici, vous avez la moyenne. Ici, vous avez le scénario le plus chaud. Ici, vous avez le scénario le moins chaud. Alors, ce que vous voyez, c'est que vous avez des écarts qui vont donc de là spatialement. On voit bien qu'on a des choses qui sont ici à 4, 5, 6 degrés sur une grande partie de l'Europe. Alors que ici, par exemple, sur la France, sur toute la façade ici ouest, vous avez quelque chose qui est inférieur à 1 degré. Donc je répète, cette source d'incertitude-là, et elle est mesurée donc, sur des périodes de 60 ans, hein, donc sur une période de 60 ans, on a des écarts à cette échelle-là régionale qui sont de l'ordre de 6 degrés, simplement dus à la variabilité interne du climat. Pas au scénario, pas au problème d'incertitude épistémique, c'est-à-dire de représentation des processus. Juste la variabilité interne, donc la partie irréductible de cette prévisibilité. Alors maintenant, autre chose qui est intéressant, c'est qu'ici, je montre ici l'évolution. Alors en noir, ce sont les observations, et puis donc pour trois villes, Paris, Alger, Oslo, pour un pays pris dans sa globalité, la France, et puis le globe. Et ce que je montre ici à chaque fois, les courbes rouges et bleues, ce sont les scénarios les plus chauds et les moins chauds pour chacune des villes ou le pays ou le globe. D'accord ? Donc ce qu'on voit par exemple, c'est que suivant, alors ces trois villes ne sont pas tout à fait choisies au hasard, il y a une dépendance en latitude, en gros Alger c'est le climat subtropical, Paris c'est les moyennes latitudes, et Oslo c'est plutôt les hautes latitudes, et on voit que la dispersion globalement représentée par l'écart entre le plus chaud et le moins chaud, elle n'est pas la même suivant les trois villes en question. On voit par exemple que dans les zones subtropicales, la dispersion est moins importante. Donc le rôle de la variabilité interne chaotique, il est moins important dans les subtropiques en général qu'aux plus hautes latitudes. Après, on voit par exemple sur la France, on voit une dispersion importante. Ici, vous avez ces petites barres grises représentant l'histogramme, représentant la distribution de ces 40 projections en termes de température. Hein, donc on voit, vous avez l'échelle de température ici, de 0 à 4 pour chacun des graphes. Donc on voit par exemple dans le cas de la France, on a en fait une dispersion qui est supérieure à la dispersion d'Alger. Alors ça, c'est un peu contre-intuitif, parce que d'habitude, on dit, quand on va du global vers le local, on augmente la certitude. Ben non, pas toujours. Parfois, on va du régional vers le local, et au contraire, on diminue l'incertitude. Tout simplement parce que la variabilité interne, évidemment, elle n'est pas la même suivant les régions et les saisons et les variables auxquelles on s'intéresse. Donc ça, c'est un point extrêmement important, et qui est un des points enfin, très très importants de cette étude, donc qui était... Enfin, ce graphe est tiré en fait de ce papier de Clara Désert, enfin, c'est une adaptation d'un des graphes qui est mentionné dans son papier, et c'est extrêmement intéressant. Donc, il ne faut pas juste raisonner en termes d'échelle spatiale, c'est plus compliqué que ça. Alors, maintenant, il y a aussi quelque chose qui est souvent dit, c'est que, bon, et Hervé en a parlé, je vais revenir dessus, on dit, bon ben, souvent, modélisons les choses de manière régionale et on va affiner nos résultats, diminuer les incertitudes. Ben en fait, non, c'est pas ce qui se passe. Alors, je vais l'illustrer ici par un cas sur les canicules en France à la fin du 21e siècle. Donc, ce que je montre ici, c'est le nombre de jours de canicule. Alors, fait avec un certain nombre de modèles régionaux qui sont à très très haute résolution. Les trois modèles, enfin le même modèle ici qui a servi. Alors là, je vais passer un peu de temps. Donc là, c'est le même modèle qui est utilisé sur la ligne du haut, mais avec trois scénarios de gaz à effet de serre différents. Le A1B, le A2, le plus extrême, et le B1, le plus optimiste. Et puis là, c'est un autre modèle avec le même scénario A1B, et là encore un autre modèle, toujours avec le A1B. Donc si on regarde les trois modèles dans la boîte rouge ici, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la différence entre ces trois-là, ça représente l'incertitude réflexive, celle qui est liée aux différents scénarios. Et en gros, on voit que ben, là, on voit ce à quoi on s'attend. En gros, le scénario, celui qui émet le plus, ben, en gros, c'est celui qui donne le plus grand nombre de jours de canicule à la fin du 21e siècle, hein, 40-50. Si je montre ces cartes pour la période présente, toute la carte de France serait comme ça, serait blanche. Hein. Donc on voit un nombre très important, un peu moins important dans le cas du scénario médian, et encore un peu moins important dans le cas du scénario B1. Bon, ça c'est pour l'incertitude réflexive. Maintenant si je regarde tout ce qui est à l'intérieur de cette botte bleue, là j'ai différents modèles, mais j'ai le même scénario des gaz à effet de serre. Donc là j'ai une estimation à la fois de l'incertitude épistémique et de l'incertitude stochastique. Et ce que je vois, c'est que j'ai des différences considérables. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un modèle qui, par exemple ici, ne me donne pas de changement par rapport à l'actuel. Alors que là, j'ai un changement très important, puisque je multiplie par presque un facteur de 8, enfin 5 à 8, le nombre de jours de canicule. Et là, je suis à la fin du 21e siècle. Je ne suis pas dans les 10 prochaines années. Donc, même à cette échelle régionale, mais sur ce type d'événement-là, la variabilité interne et ou la variabilité épistémique jouent encore un rôle considérable. Alors, maintenant, en quoi tout ça, ça peut intéresser l'adaptation? Il y a des gens qui ont proposé récemment une espèce de changement de paradigme. Alors bon, l'anglais est toujours plus simple à utiliser dans ces cas-là, parce que les choses sont plus concises. En gros, c'est la question qu'on se posait avant, c'est « what might happen ?» Et puis maintenant, la question qu'on se pose, c'est « when might something happen ?» En gros, alors moi je le traduis en français par la question qui est posée classiquement, c'est « à quel horizon le seuil d'augmentation de 2 degrés par rapport au climat des années 50-80, va-t-il être dépassé ?» Bon, c'est une question qu'on peut se poser, plutôt que de dire, ben, dans le 21e siècle, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à la fin, on sera à 6 degrés, etc. Non, là, la question est plus ciblée. On définit une vulnérabilité, par exemple, par rapport au dépassement d'un seuil de 2 degrés, et puis on essaie de regarder l'incertitude sur la date à laquelle ce seuil va être dépassé. Donc c'est un petit peu l'approche qui est faite ici. Alors là, elle est illustrée à partir d'un certain nombre d'un projet qui s'appelle le projet Ensemble et d'utilisation de modèles régionaux sur l'Europe. Donc ce sont des modèles à haute résolution, 25 km hein, de résolution, donc ce qu'on fait à peu près de mieux aujourd'hui en termes de modèles régionaux sur des grandes régions. Et puis un seul scénario de gaz à effet de serre, le scénario A1B. Et en fait, ce que je montre ici, c'est donc l'évolution suivant le temps, de 1950 à 2100. Ici, vous avez l'anomalie de température par rapport à la période 50-80 en degrés, moyennée sur l'Europe. Alors, en noir, ici, vous avez les observations. Donc, forcément, comme je calcule les anomalies par rapport à la période 50-80, eh bien, les oscillations sont autour de zéro sur cette période-là. Puis après, on voit le réchauffement qui a été observé, hein, la courbe en noir. Et puis, vous avez après, en rouge, la moyenne des 13 modèles qui a été utilisée. Et puis les plages jaunes et oranges vous donnent l'incertitude, alors un écart-type et deux écart-types autour de cette moyenne. Donc on voit, alors, et troisième information nécessaire, c'est cette courbe en pointillé là que vous voyez. Alors cette courbe en pointillé, il faut la lire avec cet axe désordonné ici, c'est le pourcentage de modèles pour une date donnée qui sont au-dessus de 2 degrés. D'accord ? Donc par exemple, je prends un exemple. Si je veux que deux tiers des modèles, je veux regarder l'instant auquel deux tiers des modèles dépassent ce seuil de 2 degrés, je pars d'ici, je suis à 66% ici, je trace un trait, j'arrive ici sur ma courbe pointillée, je redescends, je suis à peu près à 2050. D'accord ? Maintenant, si je veux regarder la première date à laquelle un modèle dépasse cette valeur de 2 degrés, ben c'est ici, hein, je suis à peu près en 2030. Et puis à partir de 2065 à peu près, tous les modèles utilisés dans ce projet dépasse le seuil de 2 degrés. Alors, c'est une autre vision, c'est une autre façon de voir les choses. On peut donc quantifier l'incertitude, qui, à mon avis, est plus utile pour les questions d'adaptation que la façon traditionnelle de présenter, soit en choisissant des périodes ciblées dans le temps, en disant « je regarde le milieu du 21e siècle ou la fin du 21e siècle et j'essaye de voir les différences en termes de changement par rapport à l'actuel ». Là, c'est une autre vision qui, à mon avis, est mieux adaptée aux problématiques de l'incertitude. Alors, on peut décliner ça même presque pays par pays, toujours avec la même base de modélisation. Alors, c'est ce que je montre ici. Donc, en fait, ici, vous avez l'ensemble des pays européens. Alors, ça va d'est en ouest. Hein, bon, à des chouïas après. Ici, les codes de couleur représentent le pourcentage de modèles qui, pour une date donnée, ici, vous avez le temps, hein, donc de 2000 jusqu'à la fin du siècle. Donc, le pourcentage de modèles qui dépasse la barre de 2 degrés, toujours par rapport aux températures moyennées sur la période 1950-1980, donc avant cette rupture dont Hervé a parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit plusieurs choses. On voit que, tel que représenté par ces modèles, il y a déjà des endroits en Europe où on a dépassé, mais pas de manière continue. Par exemple, ici, il y a un modèle qui a dépassé ces 2 degrés, et puis pour une période, puis après plus, puis après de nouveau, etc. Donc on voit ici l'empreinte encore de la variabilité naturelle sur ces questions-là. Et puis ici, la couleur bleue, en gros, on est à 25%. Alors attention, on est à 25% de 13 modèles. Hein. C'est des pourcentages sur un nombre de modèles qui n'est quand même pas infini, qui est 13. Hein. Donc il faut faire un petit peu attention. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on a une variation... d'est en ouest, on n'a pas tout à fait les mêmes temps à partir desquels, par exemple, quand on est dans les couleurs rouges, tous les modèles dépassent 2 degrés. On voit par exemple ici qu'en Irlande, même à la fin du 21e siècle, il y a encore des modèles qui simulent une augmentation de température inférieure à 2 degrés. On voit à peu près la même chose ici pour l'Angleterre, où c'est simplement à la fin du 21e siècle qu'on a, et encore, c'est pas complètement constant. Donc il y a encore de la variabilité, mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années 2060, la quasi-totalité des pays européens, en particulier ceux situés à l'Est, suivant de nouveau ces projections régionales, le seuil de 2 degrés, et c'est 2 degrés par rapport au climat de 1950-1980, pas par rapport au climat pré-industriel. Donc là, on est déjà dans quelque chose qui est plus grave que la préconisation classique. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Et donc on voit, alors ici on a aussi quelque part, on peut se dire, en fait, on a aussi une très grande incertitude, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en condition d'incertitude épistémique, rien ne dit que le multimodèle soit le meilleur choix. Et au contraire, il y a beaucoup d'exemples qui indiquent que le multimodèle vu comme la moyenne des modèles est souvent un mauvais choix. Là je n'ai montré que des exemples sur la température. Si je vous montrais les choses, le même type de graphe que ce que j'ai montré sur les précipitations, l'amplitude à la fois de la variabilité de l'incertitude stochastique et même de l'incertitude épistémique serait plus importante. Pas partout, mais en tout cas dans certaines régions, en particulier aux moyennes et hautes latitudes. Alors, c'est mon dernier transparent, donc c'est un transparent de conclusion. Alors, je crois qu'il est clair qu'une attente forte vis-à-vis de la disponibilité de projections climatiques fiables aux échelles régionales. Je crois que cette attente croît avec l'amélioration des modèles de climat qui est incontestable, et puis l'augmentation des puissances de calcul également. En plus des incertitudes épistémiques et réflexives, il existe aussi, et ça c'est souvent pas ignoré, mais en tout cas pas mis suffisamment en avant, une barrière intrinsèque à la prévisibilité climatique sur des longues périodes, pas uniquement sur des périodes courtes, et donc forcément aux objectifs d'adaptation aux échelles régionales. Et donc cette barrière de prévisibilité est intrinsèquement liée à la nature chaotique du système que nous essayons d'étudier et de mieux comprendre. Alors cette barrière de prévisibilité, comme je l'ai montré, elle est liée à la variabilité interne climatique et à ses manifestations à l'échelle régionale. Et ce qui est très important, c'est qu'elle diffère évidemment suivant les régions, les variables considérées et les saisons. Alors les évolutions, et ça aussi, et elle ne dépend pas linéairement d'échelle spatiale. Je vous ai montré dans le cas Alger et la France, et si j'avais même regardé l'Europe, ça aurait été la même chose. Il y a des cas où parfois, à de toutes petites échelles spatiales, l'incertitude stochastique est en fait moins grande que celle qu'on a sur un pays, voire même un continent. Donc, je renvoie au papier de Clara Désert pour une illustration typique de ça, dans le cas de l'Amérique du Nord, par exemple. Donc, ce qui veut dire que les évolutions climatiques liées au forçage anthropique, pour les régions où la variabilité interne contribue peu, sont susceptibles d'être potentiellement plus prévisibles, même à des petites échelles. Et donc, il me paraît fondamental et même vraiment nécessaire de mieux comprendre et de caractériser la dynamique et les impacts régionaux liés à cette variabilité interne. C'est un petit peu le message qu'Hervé a fait passer aussi avec son transparent sur l'Amérique du Sud. C'est exactement la même idée. Alors, également très important, les méthodes de descente d'échelle n'annihilent absolument pas l'incertitude stochastique, puisque toutes ces méthodes de descente d'échelle, qu'elles soient dynamiques ou statistiques, utilisent d'une certaine façon comme condition aux limites, si je puis m'exprimer ainsi, les modèles globaux. Donc cette, l'incertitude stochastique présente dans les modèles globaux rejaillit tout naturellement dans ces méthodes-là. Elle rajoute du détail spatial, mais elle n'annihile pas l'incertitude stochastique. Et enfin, évidemment, ben ça je pense que c'est peut-être le point le plus important, un dialogue accru entre les scientifiques et les autres acteurs de l'adaptation est absolument indispensable. Voilà, merci.
Merci Laurent. Alors, des questions dans la salle, Katia ?
La même Katia Laval que tout à l'heure.
Elle n'a pas changé.
Tu nous as montré des schémas où tu mettais tous les modèles, où tu donnais les résultats de tous les modèles sur la température estivale sur la France.
Ouais.
Et on a vu largement la dispersion. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as, puisque j'ai l'impression que c'est un papier que tu as fait, est-ce que tu as fait la même chose sur l'hiver? Est-ce que tu trouves la même dispersion? Et sinon, et si ça n'est pas le cas, est-ce que tu l'attribues plus à de la variabilité atmosphérique ou à un problème de surface et de végétation?
Alors, question précise, réponse précise. Oui, on l'aura fait aussi sur l'hiver. Il y a une très forte variabilité, mais moins importante, en particulier pour la fin du XXIe siècle, alors que pour le milieu, c'est à peu près comparable. Et évidemment, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait une si forte variabilité sur les températures d'été, dans les modèles donc, utilisés pour le quatrième rapport du GIEC. Et donc ça, c'est un papier qui a été écrit par un de mes anciens étudiants, qui est maintenant chercheur au CNRS, Julien Boé. Et on montre en fait que l'incertitude épistémique, et en particulier le lien entre la façon dont les surfaces continentales interagissent et répondent au flux de rayonnement, joue un rôle considérable. Et on a même pu aller plus loin, puisqu'en fait, on a montré que la dispersion dans le climat futur, donc entre tous ces modèles, en termes de lien entre l'humidité du sol et le rayonnement et donc l'évapotranspiration, que certains de ces modèles, donc c'est ce processus qui explique cette grande dispersion, et qu'il y a une partie de ces modèles, et que ce processus-là, on peut aussi d'une certaine façon le valider dans le climat actuel, puisqu'on a un certain nombre de pseudo-observations, on n'a pas les observations d'évaporation, mais on peut, avec les meilleurs forçages atmosphériques possibles, avoir une assez bonne idée, au moins du signe. Et en fait, il y a un certain nombre de ces modèles qui, dans le climat présent, ont le mauvais signe. Donc comme c'est ce processus-là qui explique la dispersion, et qu'un certain nombre de ces modèles, dans le climat présent, par rapport aux observations, ne représentent pas correctement ce processus, on n'a aucune raison. Alors là, dans une vision bayésienne des choses, on dirait cela, je les mets à la poubelle, je construis mon prior avec les autres. Et puis voilà, donc...
C'est drôlement bien ce que tu fais. Je voulais d'abord te faire une remarque.
Ça, c'est avant la critique qui suit, ça, en général.
Non. Donc, ce que tu es en train de faire, donc tu supposes que tu as un modèle que tu as construit qui représente à peu près bien le fonctionnement de l'atmosphère. Et puis tu le perturbes un petit peu, et tu dis ça va me faire des ensembles. Et donc c'est-à-dire que tu es en train de faire des membres échangeables. C'est-à-dire pour toi, chacune de ces trajectoires a la même probabilité, et ils sont indistinguables du point de vue de tes prévisions. Donc en fait, tu es en train d'utiliser cette notion d'échangeabilité, et avec en arrière-plan l'idée que si tu connaissais vraiment le futur, le vrai climat, ok, donc si tu conditionnais sur cette grandeur inconnue, à ce moment-là, tes membres seraient indépendants. Là, ils ne sont pas indépendants parce que tous, ils s'expriment, ils sont liés parce qu'ils représentent le climat. Donc si on connaissait le climat, en conditionnant sur le climat, ta variabilité stochastique, en fait, c'est parce que tu ne connais pas le climat. Donc,
oui.
Tu es d'accord avec moi, cette échangeabilité...
Je le dirais différemment, mais oui, fondamentalement, oui.
Cette échangeabilité, elle traduit le fait que tu ne connais pas le climat. Et donc, si tu es d'accord avec moi, tu es en train de réintégrer cette variabilité stochastique dans une méconnaissance, donc sous la rubrique épistémique.
Non, celle-là, je pense que on peut... L'estimation que j'en fais là, je l'ai faite avec un modèle, je la ferai... Si elle avait été faite avec d'autres modèles, l'amplitude pourrait varier. Ce qu'on sait aujourd'hui avec les modèles qui existent, c'est que oui, elles varient, elles peuvent varier même de manière assez substantielle, mais que grosso modo, elles existent toujours, quelle que soit l'échelle de temps. Alors que l'incertitude épistémique, par exemple, on peut espérer, en tout cas c'est ce à quoi un certain nombre d'entre nous essayons de travailler tous les jours, c'est qu'on essaye de la réduire de plus en plus. Alors évidemment, on n'arrivera jamais à résoudre nécessairement tous les petits phénomènes, mais il y a aussi une question d'échelle, c'est-à-dire que une question qui n'est pas tranchée aujourd'hui, c'est jusqu'à quel degré de raffinement il faut aller dans la représentation des processus à échelle très fine pour calculer une sensibilité climatique. Et le chiffre qu'Hervé a montré, c'est qu'en gros, on a quand même beaucoup fait évoluer les modèles depuis les années 70, depuis le premier modèle de Banabé et Brian au GFDL, ça fait 40 ans, et qu'aujourd'hui, la sensibilité climatique n'a pour l'instant pas encore évolué de manière radicale. Il y a eu, alors Hervé disait oui, c'est toujours 1,5, 4,5. Bon, il y a eu des gens qui ont essayé de perturber les paramètres dans les modèles en faisant des expériences de Monte Carlo de très grande taille, en exploitant les ordinateurs individuels de chacun et qui ont proposé des valeurs plus élevées. Mais ils n'ont jamais pris la peine de vérifier que ces modèles-là, ils étaient quand même relativement réalistes en termes d'une représentation du climat actuel. Cela dit, il y a eu des valeurs proposées jusqu'à 10 degrés, hein, 11 degrés. Hein. Bon, voilà, après...
Oui, donc bonjour, Clarisse Phil, EDF. Alors j'avais une question sur les incertitudes liées plutôt aux observations et à l'état initial en fait, enfin disons c'est... Là on parle plutôt de climat, mais en météo en fait, bah, y a aussi une limite de prévisibilité, comme tu l'as indiqué, qui fait qu'on ne sait pas forcément prévoir de manière précise le temps qu'il fera dans une semaine, et qui est pour grande partie due à l'état initial sur l'atmosphère. Donc ma question c'était sur... climat, donc l'état initial de l'atmosphère joue, mais c'est dans une moindre mesure, mais celui de l'océan va jouer, j'imagine, de la couverture de glace, etc.
Attention, là, ce que j'ai montré, les modèles partagent, alors je ne l'ai peut-être pas précisé, mais les 40 projections avec ce modèle, couplées océan-atmosphère, partagent exactement le même état initial océanique. La seule différence entre ces 40 projections, c'est un jour différent pris dans l'atmosphère. C'est tout.
Donc c'est
une limite basse. C'est-à-dire que si en plus on avait fait varier l'état initial océanique, on aurait peut-être augmenté encore la barre d'incertitude. Mais déjà cette limite basse, peut-être t'as pas eu le temps de comparer avec les premiers graphes, mais en gros, la variation par exemple sur la France du delta de température, en gros il est très très proche du plot Smarties que j'ai montré. C'est-à-dire qu'en gros on peut dire que... ce plot Smarties où je mélange, où j'ai 23 modèles qui ont chacun leur propre représentation physique des phénomènes, alors qui n'est pas indépendante bien entendu parce qu'elles sont tirées des mêmes lois, elles sont du même corpus théorique, mais il y a quand même des différences sensibles. Elles mélangent évidemment donc cette variabilité-là et la variabilité qui est liée à la variabilité naturelle, puisque ces modèles n'ont aucune raison de représenter la même évolution de la variabilité naturelle. Mais l'estimation que j'ai montrée après, en gros, à la louche, c'est plus de 80% ou 60%, enfin, c'est entre 60 et 80% de cette incertitude totale. Donc c'est une partie majeure de cette incertitude. Et c'est une partie majeure, mais qu'on ne peut pas espérer réduire de façon sensible. Donc, voilà.
Merci.
Oui, j'ai une question. Florence Abetz, le narcissif. Justement, sur cette partie-là, que je trouvais relativement affolante, là, sur les 6 degrés liés uniquement à la variabilité interne, je voulais juste une précision. C'est 6 degrés sur une année ou c'est sur une moyenne?
Non, c'est 6 degrés sur le réchauffement entre 2000 et 2060. Oh. Ah, c'est pas tout à fait 6 degrés, c'est un peu moins. Enfin, bon,
en fait, ce sont des trajectoires différentes. Enfin, c'est pour un même scénario, des trajectoires différentes avec le même modèle. Oui, c'est ça.
C'est le même modèle, et comme le disait Eric, en fait, on peut le voir comme en disant j'ai 40 projections, je fais l'exercice intellectuel de dire une de ces projections, ce sont les observations, c'est la réalité, et tous les autres, ce sont des trajectoires plausibles, exactement similaires, ça aurait pu être l'une ou l'autre. Et tour à tour, je peux dire bah, tiens, je prends la première comme étant les observations, puis je regarde les autres comme des prévisions, puis je prends la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. Et voilà, je construis comme ça la dispersion. C'est exactement l'analogie avec la prévision météo, la prévision d'ensemble qui est faite classiquement. Sauf que là, on n'est plus la barrière de prévisibilité, c'est plus 3 semaines, comme en météo. Aujourd'hui, on ne la connaît pas. C'est la grande question sur le climat, c'est quoi la barrière de prévisibilité climatique? 5 ans, 10 ans, enfin, évidemment, dépendant de la variable qu'on regarde. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, c'est peu. Alors, peut-être parce qu'il faut qu'on progresse, etc., etc., mais aujourd'hui, c'est peu. Donc, à partir de ça, au-delà de quelques années, de quelques mois, de quelques années, on est dans ce domaine-là, et donc dans quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas réductible.
Mais en fait, dans tes 40 trajectoires, c'est ça, hein,
oui.
Quelle est la probabilité d'avoir ces situations extrêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, il y en a un gros lot qui se trouve à peu près dans une... Ou est-ce que tout est complètement...
Ça serait plus probable, puisque la seule différence, c'est que dans mon... L'état initial de l'atmosphère, au lieu de prendre, je prends le 1er décembre pour l'une, l'autre prend le 2, l'autre prend le 3, l'autre perturbe un peu, etc. Et donc, et je les perturbe à l'intérieur de l'incertitude que j'ai sur les observations.
Non, ce que je veux dire, c'est dans les 40, elles sont toutes complètement, tout se répartit à 60 ans dans la gamme, ou est-ce qu'il y a une certaine concentration autour de valeurs moyennes?
Ben, en fait, tu l'as.
Parce que là, tu montres que les extrêmes.
Non, tu l'as là, tu as la dispersion ici. Donc en fait, tu as cet histogramme là, donc tu as le nombre de membres ici, donc ça va de 0 à 30, d'accord. Et ça, tu as la PDF, si j'ose dire, la fonction de distribution, suivant la valeur. Donc là, par exemple, je suis à 4 degrés, bon ben voilà, donc là, on voit que c'est très... Même avec 40, on n'a pas une gaussienne, hein, on n'a pas une cloche, hein. Il en faudrait bien plus. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que sur Alger, par exemple, alors on le voit déjà ici sur le min et sur le max, mais on a une distribution qui est bien moins grande que sur la France.
Ça veut dire qu'il y a des régions où on aura plus de mal à pouvoir...
Ça veut dire qu'il y a des régions où, intrinsèquement, on sera incapable de délivrer des projections avec une barre d'incertitude réduite. Alors, il y aura forcément, par exemple, dans le cas du papier de Clara Deser, pour Seattle, le nord des États-Unis, on regarde les précipitations. En 2060, donc sur une échelle de temps de 60 ans, on a soit une diminution, soit une augmentation. Quand il faut dimensionner la taille des tuyaux pour évacuer les crues liées à un épisode convectif important... Ben, voilà comment on fait.
Oui. Je voudrais te faire une remarque. Quand tu dis équiprobable, c'est équiprobable pour toi.
Oui, bien sûr.
Et donc tu es en train d'utiliser une probabilité subjective.
Absolument.
Et ce qui est très bien, je veux dire, je suis court, hein, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est dans ta vision du monde, tu es prêt à parier que chaque scénario est le même.
À partir du moment où
tu es prêt à parier la même chose sur chacune des trajectoires.
À partir du moment où je montre clairement quel est mon prior.
Tu n'as pas de prior là, tu as une vision du monde.
Non, j'ai un prior qui dit j'utilise ce modèle-là,
oui,
j'utilise ce modèle-là que je connais parce que je l'ai regardé, je sais qu'il a un certain nombre de qualités, un certain nombre de défauts. J'estime qu'il est, en tout cas par rapport à ça, le plus plomb.
Si tu veux le regarder.
Ou un D, mais je ne dirais pas qu'il est le plus, c'est un D, parce qu'en fait, comme tu l'as dit ou quelqu'un l'a dit, il faut toujours regarder une diversité de modèles. Bon, il faut simplement avoir conscience que réaliser 40 simulations sur 60 ans, etc., ça demande un certain investissement. Que les grands centres sont capables de faire. Donc là, c'était le NCAR, donc ça tombe bien, mais voilà, bon, c'est pas toujours possible.
Alors, moi, j'ai eu une expérience plutôt en météo sur les ensembles, et donc c'est un peu la même chose. Ils prennent un modèle canadien ou un modèle américain, ils le bidouillent un petit peu, et
ben, puis français, hein.
Ils créent des... Oui, mais eux, c'est gratuit, l'accès de l'enquête.
Ah oui, ça.
Et donc, c'est pour ça que les matheux qui sont plutôt pauvres vont plutôt chercher ces données-là. Cette expérience-là montre souvent qu'il faut un post-traitement sur les simulations issues d'ensemble parce que c'est pas toujours bien calibré. Notamment, ils sous-estiment la variabilité. Est-ce que dans le cas climatique, c'est ça aussi ?
Ben non, le problème c'est que eux ils sont sur des, ils ont une base de validation ou de calibration qui est incomparablement plus longue que la nôtre. C'est-à-dire que nous là, je parle de variabilité de l'ordre de dizaines ou de vingtaines ou de quelques décennies. Or, des observations, on a quelques décennies d'observations. Eux, c'est une prévision sur 5 jours. Donc là, des exercices et des... Donc la fiabilité, dans le sens statistique du terme...
Parce que là, on rejoint la probabilité objective. On compte le nombre de fois où ça se passe bien.
On peut calibrer la fiabilité d'un ensemble en prévision météo. On est aujourd'hui incapable, tout simplement parce qu'on n'a pas la base d'observation, la profondeur temporelle pour le faire, de faire la même chose pour un modèle de climat. Donc on est obligé de passer par d'autres techniques.
Et dans la réalité, de toute façon, on ne vivra qu'une trajectoire, donc notre capacité de faire vraiment la première approche objective sera peut-être limitée. Merci Laurent, on va passer à Robert Gautin.